Bonjour les oreilles et bienvenue dans l'émission Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Une émission dédiée à toutes ces histoires qu'on raconte pour s'endormir, se réveiller, pour partir et peut-être revenir. Je vous donne une poignée de mots pour qu'ils ne tombent ni de haut ni dans l'oubli, faites-en bon usage. Je suis Caroline et je vous propose de faire la route en ma compagnie pour une petite demi-heure et à toute heure du jour et de la nuit, dimanche et jours fériés compris, en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. À quoi vous pensez quand on vous parle des contes classiques? À quelle histoire en particulier? De mon côté, c'est le petit chaperon rouge qui vient en premier. Cette histoire m'a toujours interpellée. Comment le loup fait-il pour engloutir intégralement une grand-mère? Et comment le petit chaperon rouge fait-il pour ne pas s'apercevoir que c'est un loup et non pas sa grand-mère? Oui, je sais, c'est très premier degré et c'est vraiment trop rationnel. Perrault a écrit ce conte en 1697. Et le voici pour vous rafraîchir la mémoire. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle et sa grand-mère plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui saillait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comment se porte ta grand-mère car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir Mère Grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui !» dit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. »« Eh bien ?» dit le loup, « je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici et toi par ce chemin-là et nous verrons qui plus tôt y sera. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère Grand, il heurte. « Toc, toc !»« Qui est là ?» « C'est votre fille, le petit chaperon rouge !» dit le loup en contrefaisant sa voix. « Qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie ?» La bonne mère Grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette et la bobinette serra !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait rien mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère Grand en attendant le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. « Toc, toc ! Qui est là ?» Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord. Mais, croyant que sa mère Grand était enrhumée, répondit « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix, « Tire la chevillette et la bobinette serra !» Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi !» Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère Grand était faite en son déshabillé et elle lui dit « Ma mère Grand, que vous avez de grands bras !» « C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. »« Ma mère Grand, que vous avez de grandes jambes. »« C'est pour mieux courir, mon enfant. »« Ma mère Grand, que vous avez de grandes oreilles. »« C'est pour mieux écouter, mon enfant. »« Ma mère Grand, que vous avez de grands yeux. »« C'est pour mieux voir, mon enfant. »« Ma mère Grand, que vous avez de grandes dents. »« C'est pour te manger. » Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Moralité ? On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens et que ce n'est pas chose étrange s'il en est tant que le loup mange. Je dis le loup, car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'humeur accorte, sans bruit, sans fiel et sans courroux, qui, privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux, de tous les loups, sont les plus dangereux. Voilà, ça, c'était Le Petit Chaperon Rouge, écrit par Perrault. C'est donc la toute première version de ce conte qu'on connaît. Et je ne peux pas m'empêcher de souligner l'actualité de Perrault, qui est tellement en accord avec notre époque, s'inscrivant si bien dans ce contexte post-MeToo. Que dit Perrault dans sa morale à la fin du conte ? Que c'est avant tout le comportement des jeunes filles qui est mis en cause. En fait, elles ont tort de parler à des inconnus ou, comme le dit le texte, elles font très mal d'écouter toutes sortes de gens. Donc tout d'abord, on blâme le comportement des jeunes filles. Ensuite, apparemment, le physique pose problème, car être belle, bien faite et gentille, comme dit le conte, est presque un reproche. Peut-on reprocher à cette jeune fille de porter un chaperon rouge qui lui saillait si bien, comme le dit le conte au début ? Et à quand une tenue républicaine pour les personnages de conte, me direz-vous ? Et puis, enfin, il y a la couleur rouge. Sans compter qu'au-delà de la tenue, le choix de la couleur n'est sans doute pas anodin. Le rouge, en fait, c'est une couleur vraiment paradoxale. Le rouge, c'est la couleur du cœur, de la passion, de la vie, mais c'est aussi la couleur de la séduction, de la tentation et du danger. Donc, si les contes ont pour mission d'éduquer, ici, Perrault fait culpabiliser les jeunes filles avant de les mettre en garde. Et oui, il reproche d'abord le comportement des jeunes filles qui parlent aux inconnus avant de leur dire que c'est dangereux. Donc Perrault rejette presque la faute aux jeunes filles si elles sont victimes de leur mésaventure. Et nous, en tant que femmes, eh bien, on est héritières de cette mentalité. Et puis, il y a quelque chose de très très surprenant dans ce conte, c'est l'image du petit chaperon rouge. À la première lecture, ce personnage nous semble vraiment naïf. C'est vrai, elle se laisse charmer par les propos du loup, elle ne se rend pas compte que dans le lit, il ne s'agit pas de sa grand-mère. Enfin, elle pose des questions, mais bon, elle n'a pas assez peur pour sortir du lit, en tout cas. Simone de Beauvoir avait proposé une analyse et des interprétations sur les personnages féminins dans le conte. Elle avait d'ailleurs souligné la passivité de ces personnages féminins. Et Elena Gianibellotti, elle, avait travaillé sur leur soumission. Et c'est vrai que le personnage du petit chaperon rouge est assez soumis. Quand le loup lui dit qu'elle devrait passer par tel chemin, elle le fait. Quand elle rentre dans la maison et que le loup lui dit de venir se coucher auprès de lui dans le lit, elle le fait encore une fois. Donc en fait, le petit chaperon rouge fait tout ce que le loup lui dit de faire sans vraiment remettre en cause ses propos. Mais le conte a évolué. Il a voyagé, il a été réécrit et d'autres facettes du petit chaperon rouge sont apparues. La preuve avec cette réécriture qu'on a trouvée en France et plus précisément en Touraine. Le titre est « L'homme bien laid et sa truie ». Une fois, il y avait une fillette qui s'appelait Jeannette. Quand elle travaillait au champ ou s'occupait des bêtes, elle était toujours accompagnée de son chien Barbette. Un chien Barbette, c'est une race très ancienne de chiens. Un jour, Jeannette a entendu dire que sa grand-mère était malade. Le lendemain, elle s'est mise en route avec son chien Barbette pour aller la voir. Elle était déjà loin quand elle s'est arrêtée à une croisée de chemin. Lequel fallait-il prendre ? Celui de gauche ou celui de droite ? Un homme est arrivé, avec une truie. Il était laid, mais bien laid. Jeannette lui a dit qu'elle allait voir sa grand-mère malade. Elle lui a demandé son chemin. « Il faut aller à gauche, petite. C'est plus court. Vous serez vite rendue. » Jeannette a pris le chemin que l'homme bien laid lui avait indiqué. Mais c'était le plus long. En plus, elle s'enfonçait dans les patouilles et n'avançait que lentement. Les patouilles, ce sont des endroits boueux. Pendant ce temps, l'homme bien laid marchait d'un pas pressé sur le chemin de droite, le plus court et le mieux entretenu. Il est vite arrivé devant la ferme de la grand-mère. Il a mis sa truie aux têtes, c'est-à-dire dans l'étable, puis il est entré dans la maison. Il a tué la pauvre femme et a déposé son sang dans la mette. C'est un grand coffre en bois dans lequel on enfermait la nourriture qu'on voulait garder. Ensuite, il a pris sa place dans le lit. La petite fille est arrivée à la tombée de la nuit. Elle a frappé à la porte. Elle a ouvert et elle est entrée. « Comment allez-vous, ma grand-mère ?» L'homme bien laid, ce vaurien, a dit d'une voix plaintive. « Pas mieux, ma fille, pas mieux. As-tu faim ?»«
Oui, ma grand-mère, qu'y a-t-il à manger ?»«
Il y a du sang dans la mette. Prends la poêle pour le fricasser, ensuite tu le mangeras. »
La petite a obéi. Pendant qu'elle fricassait le sang, elle a entendu, du haut de la cheminée, des voix, comme des voix d'anges.
« Ah, la maudite petite fille qui fricasse le sang de sa grand-mère. » Qu'est-ce qu'elles disent donc, ma grand-mère, ces voix qui chantent par la cheminée ?
Ne les écoute pas, ma fille, ne les écoute pas, ce sont des petits oiseaux qui chantent leur langage. »
La petite continuait à fricasser le sang de sa grand-mère. Mais les voix ont recommencé à chanter.
« Ah, la vilaine petite coquine qui fricasse le sang de sa grand-mère. Je n'ai pas faim, ma grand-mère, je ne veux pas manger de ce sang-là. »
« Eh bien, viens au lit, ma fille, viens au lit !»
Jeannette s'est glissée dans le lit à côté de l'homme bien laid.
« Ah, ma grand-mère, que vous avez de grands bras !»«
C'est pour mieux t'embrasser, ma fille, c'est pour mieux t'embrasser !»«
Ah, ma grand-mère, que vous avez de grandes jambes !»«
C'est pour mieux marcher, ma fille, c'est pour mieux marcher !»«
Ah, ma grand-mère, que vous avez de grands yeux !»«
C'est pour mieux te voir, ma fille, c'est pour mieux te voir !»«
Ah, ma grand-mère, que vous avez de grandes dents !
C'est pour mieux manger, ma fille, c'est pour mieux manger !»
Jeannette a pris peur.
« Ah, ma grand-mère, que j'ai envie de faire !
Mais fais au lit, ma fille, fais au lit !
Mais c'est bien sale, ma grand-mère ! Si vous avez peur que je m'en aille, attachez-moi un brin de laine à la jambe, vous n'aurez qu'à tirer dessus pour vous assurer que je suis toujours là !»
Tu as raison, ma fille, tu as raison.
La fausse grand-mère a noué autour de la jambe de Jeannette un brin de laine et a gardé le bout dans sa main. Quand la fille s'est retrouvée dehors, elle a rompu le brin de laine et a fui avec son chien Barbette. Pendant ce temps, la fausse grand-mère s'impatientait.
« As-tu fait, Jeannette ? As-tu fait ?»
Les mêmes voix, comme des voix d'anges, ont répondu du haut de la cheminée.
« Pas encore, ma grand-mère, pas encore !»
Et puis, beaucoup plus tard,
« Ça y est, c'est fini !»
La fausse grand-mère a tiré le brin de laine. Elle a tiré, mais il n'y avait plus rien au bout.
Tout en colère, l'homme bien laid s'est levé, il est allé chercher sa truie aux têtes. Il l'a enfourchée et est parti à la poursuite de la fille. Il est arrivé près d'une rivière où des laveuses lavaient la buis, c'est-à-dire qu'elles faisaient la lessive. « Avez-vous vu passer Jeannette, une fillette avec un chien Barbette qui la suivait ?»«
Oui, nous l'avons vue, nous avons étendu un drap sur l'eau de la rivière et elle a traversé en passant dessus. »
Et l'homme bien laid s'est écrié.
« Ah ! Eh bien, étendez donc un autre de vos draps pour que je passe à mon tour !»
Les laveuses ont étendu un drap sur l'eau et l'homme bien laid s'y est engagé, toujours monté sur le dos de sa truie.
Aussitôt, il a senti le drap s'enfoncer dans la rivière. « Lape, 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 ma grande truie, si tu ne lapes pas tout, nous finirons noyés !»
La truie a lapé, tellement lapé, qu'à la fin, elle a éclaté. L'homme bien laid a fini noyé. Quant à Jeannette et son chien Barbette, ils ont été sauvés.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps. Perhaps. If you can't make your mind up, we'll never. say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps.
Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Vous êtes toujours à l'écoute de Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. On ne peut pas nier que cette réécriture du conte classique, de la version classique du Petit Chaperon Rouge, est un peu surprenante, voire dégueu, mais enfin, ça, c'est quand même un point de vue personnel. Non, elle est surprenante, cette évolution, parce qu'en fait, elle est beaucoup plus gore, mais en même temps, elle finit bien, donc elle est assez paradoxale. D'ailleurs, le conte ne porte plus vraiment sur le Petit Chaperon Rouge, mais plutôt sur l'homme et l'animal, et ça, on le voit dès le titre. Alors, bien sûr, on garde ce lien entre l'enfant et l'animal, mais alors que dans la version de Perrault, il y avait comme un pouvoir magique qui était accordé au Petit Chaperon Rouge parce qu'elle comprenait et arrivait à parler avec un animal, ici, ça n'a plus lieu, puisque l'enfant parle à un être humain, à cet homme bizarre rencontré dans les bois. Par contre, il y a toujours ce rapport enfant-animal, puisque l'enfant a un chien, mais l'homme en face a aussi un animal. Donc on garde quand même un lien comme ça. Mais le rapport qu'il y a en plus, eh ben, c'est la pédophilie. C'est le rapport enfant-adulte, c'est l'homme qui invite l'enfant dans son lit, etc. etc. Donc ça, ça a été vraiment rajouté dans ce conte-là. Et tandis que dans la version de Perrault, il y avait un aspect assez ludique dans la première rencontre entre le Petit Chaperon Rouge et le loup. C'était présenté comme une forme de jeu. Au moment où ils se rencontrent sur le croisement, c'est celui qui arrivera en premier à la maison. Il y avait quelque chose de ludique dans la version de Perrault quand l'enfant se promenait dans les bois. C'est-à-dire qu'au moment où il est perdu et qu'il rencontre le loup, le loup lui indique un chemin et puis ensuite une espèce de course pour savoir qui arrivera en premier. Tandis que dans cette version-là, dans cette réécriture, ben c'est plutôt angoissant. Ici, le Petit Chaperon Rouge est perdu, elle est fatiguée et les bois sont vraiment pas accueillants. Alors que chez Perrault, le texte nous dit bien que la jeune fille s'amusait à cueillir des noisettes, à courir après les papillons, à faire des bouquets de fleurs. Ici, il y a de la boue, de l'angoisse, quelque chose qui dure et quelque chose qui n'avance pas. Et puis ici, dans cette réécriture du conte, il y a une dimension christique qui est venue se rajouter. On boit le sang, on mange la chair, la grand-mère est mangée par le loup et par l'enfant. Ainsi, tous les deux unis dans le méfait et dans le péché. En fait, ils consomment tous les deux la grand-mère et puis on ne peut pas s'empêcher de ce qu'on retrouve dans la religion catholique, le fait de boire le sang pour le sang du Christ et de manger sa chair. Voilà, ça c'est quelque chose qui a été vraiment rajouté qu'on ne retrouvait absolument pas chez Perrault. Et alors, il y a quand même quelque chose de très très surprenant dans ce conte, c'est la truie. Pourquoi cet homme se balade avec une truie ? Non, je n'ai pas la réponse à cette question. Par contre, je me suis un tout petit peu intéressée à la symbolique de la truie. Il s'avère qu'en fait, cet animal représente la fertilité. Il est à l'image de la déesse Nout qu'on rencontrait dans la mythologie égyptienne. Mais ici, la truie meurt, tuant par la même occasion l'homme. Et ce qui est très très surprenant, c'est qu'aujourd'hui, dans les œuvres destinées à la jeunesse, le cochon a un autre visage. Il est synonyme de joie et de dynamisme quand on pense à Porcinet ou Trois petits cochons. Donc, il y a eu une évolution tout à fait bizarre de cet animal dans le conte. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette réécriture du Petit Chaperon Rouge nous montre une autre facette de ce personnage. Dans cette version, on ne peut pas nier son attrait pour le danger, pour la forêt. Elle y va en fait, elle y va dans cette forêt, même si la forêt est boueuse, qu'elle est angoissante et qu'elle s'y perd, eh ben, elle avance quand même, elle ne fait pas demi-tour, elle ne cherche pas à retourner chez elle, elle veut atteindre son objectif. Et on peut aussi noter son mépris de l'autorité. Quand l'homme veut que le Petit Chaperon Rouge reste dans le lit, eh ben, elle sort quand même,
quitte à proposer une solution pour rester liée à lui. Mais elle arrive à dire non. Elle arrive à dire non, moi je veux sortir du lit, en l'occurrence pour aller faire ses besoins. Et dans les deux histoires, que ce soit la version de Perrault ou celle-ci dans cette réécriture, mine de rien, si on creuse un peu, eh bien, ce n'est pas dit que le petit chaperon rouge ne soit qu'un personnage naïf. On peut quand même souligner son autonomie, son courage. Et puis tout de même, c'est pas un personnage immobile, passif. Elle essaye, elle tente sa chance, au risque de perdre, comme dans la version de Perrault. Mais c'est peut-être pas un personnage féminin complètement soumis et passif, comme Simone de Beauvoir l'avait souligné. Et peut-être que le plus ironique dans tout ça, c'est que Perrault reproche au petit chaperon rouge, et donc à cette jeune fille, son comportement, son physique, sa beauté. Et il est vraiment ironique de constater que ce personnage aux airs si naïf inspirera la chanteuse de cabaret de Tel Savery, nommée Red, dont le loup est complètement amoureux. Ce personnage, il est extrêmement sensuel, il est séduisant, il se joue du loup, inversant ainsi les rôles. C'est un personnage qui apparaît pour la première fois en 1943 dans un court film d'animation intitulé Red Hot Riding Hood, et il est le croisement de Lana Turner, donc une pin-up de l'époque, et du petit chaperon rouge. Si Perrault savait ça.
C'était l'émission Compte-Gouttes. Je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine émission sur Radio Campus Grenoble 90.8.